Canal Bulle. On parle de BD dans le mag.
Et roman graphique aussi. Enfin bon, des bouquins avec beaucoup d'images, quoi.
Canal Bulle.
Et c'est le retour de Canal Bulle sur l'antenne de Canal Sud. Au sommaire aujourd'hui, un gros plan sur une maison d'édition indépendante, militante, les éditions Nada, qui édite romans, essais et bien sûr BD. Mais d'abord, nous allons mettre à l'honneur un album. Et comme d'habitude, pour introduire cet album, un petit extrait musical.
Enrayé, le cerveau mon barillé, c'est la corde au gros billet au réfectoire des rapiers. Souriez, vous faites la première page. C'est sans décodeur que l'on reçoit mes images. Piétine le monde en Rangers, boueuse de la télé-réalité. Sur une île ténébreuse, innocent, y'a de quoi être enragé. Du simple paysan au prisonnier orangé. L'ennemi commun sort la tête de son trou. Des hommes qui naissent avec des numéros d'écrou. Étonnante philosophie de l'église, ils resteront des indigènes qu'on évangélise. Les Afghans ne font pas de rêve, trop loin de Genève, mais la faim sans la grève. Alors on serre violemment leur ceinture et celle de leur famille déchirée par nature. Guantanamo, aux yeux du monde entier, historique impunité de la férocité. Plus de vertu de l'homme qu'étaient les siennes, mais désirent le pouvoir comme les anneaux de Tolkien. Coupable, innocent, potentiel et la cible de grands bourreaux qui nous jurent sur la Bible. Et si le mal par le mal n'est pas une erreur, on se retrouvera le jour de l'heure. Coupable, innocent, potentiel et la cible. Croiseur d'acier au réfectoire des insensibles. Et comme ma rage reçoit mes images, c'est la guerre des nerfs au fin fond du sarcophage. Ténébreuse, ma tête est en rouge. Crier au secours quand les montagnes bougent. Orangé, la couleur des bourreaux. Fantôme et détenu de Guantanamo. Deux hommes d'Afrique.
Le rappeur Medine avec un bout de son titre Guantanamo. Guantanamo, un nom qui suscite l'effroi, la révolte. C'est celui, évidemment, d'une base militaire américaine située au sud-est de l'île de Cuba. Une base devenue mondialement et tristement célèbre sous la présidence de George Bush fils, lorsqu'elle est transformée en camp de prisonniers. Alors, bon, vous connaissez l'histoire, mais peut-être que vous ne la connaissez pas si bien que ça, peut-être que vous avez oublié, peut-être que vous ne connaissez pas tous les détails, eh bien l'album du jour nous ramène dans ce lieu sordide, dans cette prison pour combattants illégaux, hein, c'était l'expression officielle, entendez par là les terroristes et les personnes affiliées à l'islamisme radical et notamment à l'organisation Al-Qaïda, hein, c'était pas encore l'État islamique à l'époque. Et l'album c'est Guantanamo Kid, l'histoire vraie de Mohamed El Ghorani. C'est signé du journaliste Jérôme Toubiana au scénario et du dessinateur Alexandre Franc au dessin. C'est édité chez Dargo en partenariat avec Amnesty International. Alors le titre est explicite, il s'agit ici d'un travail documentaire relaté en bande dessinée, l'itinéraire édifiant, cauchemardesque de l'un des prisonniers de Guantanamo, en collant au plus près à la réalité, surtout en collant au plus près à la version des faits, au récit que va en faire lui-même Mohamed El Ghorani, protagoniste donc principal de cet album. El Ghorani a en effet raconté son histoire à Jérôme Toubiana, puis a suivi à distance un grand nombre des étapes de réalisation de l'album, ce qui fait de lui quasiment le troisième auteur. Toutes les phrases que vous pourrez lire dans ce bouquin viennent des entretiens et ont été prononcées par El Ghorani. Il va d'ailleurs toucher une partie des droits d'auteur, lui qui reste en grande difficulté, notamment financière. Alors, qui est Mohamed El Ghorani? C'est un jeune Tchadien qui vivait avec sa famille en Arabie Saoudite. Alors, autant dire qu'il vit déjà à l'époque dans des conditions difficiles. C'est une vie d'immigré. Il est notamment vendeur de rue à Médine pendant quelques temps. Puis, une opportunité va s'offrir à lui. Partir au Pakistan pour étudier l'informatique avec donc une vraie possibilité de promotion sociale et il va évidemment s'emparer de cette possibilité. Il va se rendre à Karachi en 2001, contre l'avis d'ailleurs de ses parents, ce qui est important, hein, ça montre déjà le caractère du personnage. Et c'est là, à Karachi, au Pakistan, que son destin va basculer. Il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors bon, je sais que l'expression paraît un peu galvaudée, mais c'est exactement ce qui va lui arriver. Il se fait arrêter à la sortie du prêche du vendredi, aux portes de la mosquée qu'il fréquente, arrêté par l'armée pakistanaise qui va le livrer aux Américains, ou plutôt le vendre aux Américains pour $5,000, le vendre comme membre d'Al-Qaïda. Ce que les autorités US vont accepter comme vrai, hein, sans aucune vérification sérieuse. Hein, on est en pleine guerre totale, voire même en pleine croisade contre le terrorisme. Alors même que le jeune homme n'a jamais entendu ce nom d'Al-Qaïda, c'est ce qu'il raconte. Hein. La première fois qu'il va l'entendre, c'est au moment des premiers interrogatoires et des premières tortures qu'il va subir, la première torture d'une longue série. Il va être interné dans la base militaire de Kandahar, là on est toujours au Pakistan, avant d'être conduit à Guantanamo. Il a alors, tenez-vous bien, 14 ans. C'est le plus jeune des quelques 730 personnes qui ont été ou qui sont détenues là-bas depuis la mise en service de ce camp. Et il va y rester 8 années. Voici donc ce que raconte cet album sobre, coup de poing. Une arrestation absurde. Une interminable détention, faite d'humiliation, faite de torture, je l'ai dit, faite de moments de grand désespoir, mais aussi faite de solidarité entre grand nombre des prisonniers, et faite d'actes quotidiens de résistance, de révolte, car El Ghorani va faire preuve d'un esprit de rébellion permanent, hein, tout au long de sa détention. C'est un prisonnier considéré comme un prisonnier difficile qui va se confronter sans cesse à ses geôliers, qui va s'affronter même physiquement avec eux. Enfin, je ne vous en dis pas plus, le livre d'ailleurs ne s'arrête pas à sa libération qui est survenue en 2009, mais poursuit sur sa vie d'après, et c'est tout aussi intéressant. Allez donc lire les 172 pages de ce Guantanamo Kid, l'histoire vraie de Mohamed El Ghorani, tout à la fois témoignage passionnant et long réquisitoire contre cette politique d'état des autorités américaines, dont Guantanamo est... le symbole le plus criant, le plus révoltant, mais enfin on n'oubliera pas les bases secrètes de la CIA disséminées aux quatre coins du monde, notamment en Europe où la torture a également été pratiquée, on n'oubliera pas le camp d'Abu Ghraib à Bagdad, etc., etc. Et on n'oubliera pas surtout que Guantanamo est toujours ouvert, hein. Barack Obama avait promis sa fermeture, mais le camp existe toujours et des personnes y sont toujours détenues. Alors ce Guantanamo Kid est très bien servi par le dessin et la mise en page d'Alexandre Franc, que je ne connaissais pas. Celui-ci opte pour un trait sobre, tout en noir et blanc, loin de toute volonté de réalisme, et c'est tant mieux, c'est une force de l'album, que ce trait qui tire plutôt vers le cartoon, mais à l'image de ce qu'a pu faire par exemple un Carlos Jiménez, avec des séries pourtant extrêmement sérieuses, comme Paracuellos, ou le sublime Les Temps Mauvais, et ce contraste entre un propos extrêmement dur et ce dessin plus léger fonctionne à plein. Les planches sont très épurées, ce qui permet à Alexandre Franc d'aller à l'essentiel, mais aussi, on le comprend, à ne pas trop inventer. Car là aussi, Mohamed El Ghorani a eu son mot à dire, il a supervisé un bout du travail et tout ce qu'il n'a pas validé a été redessiné. Il y a donc une volonté toujours, hein, de ne pas trahir le récit de la vie d'El Ghorani et de respecter les faits. Hein, l'ouvrage est d'ailleurs très bien documenté. Alexandre Franc reproduit plusieurs documents dans ses planches, hein, des plans de prison, des décisions de justice, etc., etc. Et l'album se termine par des annexes, dont toute une série, là encore, de retranscriptions de documents et un texte du journaliste scénariste Jérôme Toubiana, hein, sur la situation de Mohamed El Ghorani aujourd'hui, 9 ans après sa libération. C'est donc un sacré bouquin, dont je l'ai dit, édité chez Dargaud, qui coûte 19,99€, sorti en librairie déjà depuis maintenant un bon mois, donc vous pouvez vous le procurer dès à présent, et qui devrait arriver évidemment dans toutes les bonnes médiathèques d'ici peu. Puisqu'on parle de bande dessinée documentaire, de documentaire graphique, c'est la première fois dans cette rubrique, hein, il était temps. C'est un genre qui s'est considérablement développé, hein, pour notre plus grande satisfaction. Des auteurs comme Joe Sacco n'y sont sans doute pas pour rien. Hein. Allez relire Gaza 1956 ou le terrifiant et sublime Gore HD, eh bien, puisqu'on en parle, c'est l'occasion de vous dire un mot sur la revue dessinée, trimestriel d'information qui regroupe de nombreux et souvent excellents reportages bande dessinée. Le numéro 19 du printemps 2018 est en librairie avec des sujets notamment sur le pouvoir d'Erdogan en Turquie, sur Brigitte Fontaine, plus léger, mais aussi sur les déserts médicaux ou encore sur les abattoirs. Ça coûte 17 euros, mais enfin, vous en aurez pour votre argent. C'est quand même assez conséquent. Allez, on passe à tout à fait autre chose. Et maintenant, comme promis, un gros plan sur une maison d'édition indépendante, les éditions Nada, grâce à l'un des deux fondateurs, fondatrices, David, que nous avons rencontré lors du dernier festival de bande dessinée de Colomiers. C'est un entretien qui date du mois de novembre.
Bonjour, je m'appelle David Doyon, je m'occupe des éditions Nada, maison d'édition qui a été fondée il y a 4 ans maintenant, en 2013. Voilà, on est une jeune maison d'édition qui essaye de développer plusieurs axes de la bande dessinée, de l'essai, de la critique sociale, un peu de littérature. Et ce qui unit un petit peu tout ça, c'est critique, on va dire, un peu du monde tel qu'il est et une volonté de diffuser, on va dire, d'autres choses.
Avec un petit fond libertaire ?
Carrément. Effectivement, on s'inscrit tout à fait dans cette logique-là et dans cette idée anarchiste.
Vous l'avez compris, il n'y a pas que de la BD ou du roman graphique au catalogue des éditions Nada, catalogue que je vous invite à découvrir sur leur site web nada-éditions.fr. Mais d'ailleurs, comment en sont-ils arrivés à éditer de la bande dessinée ? C'est quand même un travail assez spécifique et assez coûteux, hein, surtout pour une maison d'édition avec des petits moyens.
Ça vient de nos goûts personnels, en fait. On est des gros lecteurs. On est deux, hein, je précise, dans la structure. Et c'est vrai qu'on aime autant la littérature, les bouquins d'histoire, que la BD. On a toujours lu de la BD. Et à partir du moment où on avait monté la structure, on avait toujours dans l'idée de, à un moment ou un autre, pouvoir faire de la BD. Et puis un jour, l'opportunité s'est présentée. On a eu un premier projet. Et puis à Paris, un deuxième, un troisième. Et puis et maintenant, on va continuer.
La seconde membre de l'équipe, on va la nommer, c'est Rachel. Salut Rachel. Alors il est temps maintenant de voir avec David qu'est-ce qu'on peut retrouver de beau, d'intéressant au catalogue des éditions Nada, du côté évidemment des romans graphiques.
Le dernier qu'on vient de sortir, on en est très content. C'est un ouvrage de Peter Back, un auteur américain, auteur underground américain. C'est un ouvrage qui s'appelle Femme Rebelle. C'est une biographie de Margaret Sanger. Margaret Sanger, alors, elle n'est pas très connue en France. Par contre, ce qu'on connaît en France, c'est l'organisation dont elle va être la fondatrice, qui est le planning familial. Alors, elle, c'est le planning familial américain, mais qui ensuite va se développer un petit peu partout dans le monde entier. Et donc, c'est une des grandes militantes féministes américaines qui va se battre pour le droit des femmes à disposer de leur corps et la possibilité, en tout cas, de décider d'être mère ou non. Combat qui était extrêmement difficile aux États-Unis quand elle commence à militer au début des années 1910, dans le sens où évoquer parler de contraception publiquement était considéré comme un délit. C'était considéré, en fait, on l'assimilait à la pornographie, et donc ça pouvait emmener Margaret Sanger et ses amis en prison, ce qui lui arrivait à plusieurs reprises, quoi. Donc voilà, c'est une BD qui est assez chouette, dont on est très content. Et ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est un vrai roman graphique, dans le sens où c'est pas non plus une hagiographie du personnage. Il montre aussi cette femme dans toute sa complexité, avec ses côtés, ses bons côtés comme ses côtés plus sombres, plus négatifs. Il montre un peu le personnage dans toute sa complexité.
C'est une traduction, du coup ? Comment vous êtes tombé dessus, du coup ?
Totalement par hasard, lors d'un voyage en Angleterre, en regardant, en fouinant en librairie, voir ce qui était sorti, et je suis tombé dessus, quoi. Et ensuite, on a contacté la maison d'édition, c'est Drone Quarterly, les éditeurs originaux. C'est une maison d'édition qui est basée à Montréal, au Canada, mais qui est une des grandes maisons d'édition nord-américaines. de BD indé, quoi. Ça, c'est, la, c'est notre cinquième BD. Et on a sorti... Alors, c'est vrai que ce qu'on aime bien, de fait, alors c'est sans le faire non plus exprès, mais c'est bon, les biographies un petit peu. Biographies historiques de personnages, voilà, ou en couleur, qui ont de forts caractères. Et parmi les autres qu'on a sortis, donc on a une biographie de Hunter Thompson. Hunter Thompson, qui est un des grands journalistes américains des années 70, inventeur du journalisme Gonzo. Journaliste, on va dire, un peu totalement subjectif et sous-acide d'une certaine façon. On a une... c'est pas tout à fait une biographie, mais...
La BD s'appelle Gonzo, d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. On a aussi donc une, enfin c'est pas tout à fait voilà une biographie, mais un ouvrage autour de Pancho Villa, voilà une des grandes figures de la Révolution mexicaine, bandit social, bandit voilà qui va marquer l'histoire du Mexique contemporain. Voilà, on a une histoire aussi graphique Bohemians, qui est une histoire des avant-gardes artistiques aux États-Unis et qui est une série de portraits en fait voilà de ces grandes figures de l'art américain et de la contre-culture depuis la fin du 19e jusqu'à nos jours. Et on va y croiser aussi bien des poètes comme Walt Whitman, Marcel Duchamp lors de sa période américaine, qui va être un personnage clé, on va dire, dans l'évolution de l'art moderne aux États-Unis. On va y croiser des chanteurs comme Woody Guthrie, qui est voilà le pré-Dylan, on va dire, grand chanteur folk américain, très engagé, antifasciste, et qui va sauver une partie un peu du patrimoine de la chanson folk américaine. On va croiser Charlie Parker et Dizzy Gillespie, on va croiser enfin, voilà, plein d'artistes, des poètes jamaïcains, des poètes anarchistes yiddish ou d'autres encore.
Et il y a des sorties à venir ?
Ouais, on a plusieurs projets. On a dans la suite aussi un petit peu de Bohemians, dont je parlais juste avant, par le même collectif d'auteurs et de dessinateurs, un ouvrage qui va s'appeler Wooblies. Les Wooblies, donc, c'est les syndicalistes révolutionnaires américains. Et donc ça va être voilà, une série d'histoires et d'anecdotes autour des grandes luttes ouvrières radicales aux États-Unis depuis, enfin, tout au long du XXe siècle. Et la dernière qui est en cours pour l'instant, là ce sera notre première création. Jusqu'à présent, donc c'était des achats de droits à l'étranger. Ça va être une biographie graphique de Fraëlle, grande chanteuse française du début du 20e, icône de la chanson réaliste. Et c'est un jeune auteur, Johan Louis, qu'on a rencontré et qui nous a proposé ce projet-là. Et qui va être voilà, très très chouette et qui reste un petit peu voilà, dans ce qu'on fait, hein, biographie de personnages, on va dire un petit peu à la marge et qui aime bien, on va dire, bousculer les codes de leurs époques, quoi.
Je vous précise les dates de sortie des albums cités. Le Fréhel de Johan Louis paraîtra le 24 août 2018 et Wobblies, sous-titré Une histoire ouvrière des États-Unis, ce sera un peu plus tard, à l'automne, le 11 octobre. Mais plus proche de nous, dans quelques jours, là, fin mai 2018, la réédition d'un ouvrage déjà existant, Un ruban autour d'une bombe, une biographie textile de Frida Kahlo, signée Maud Gelly et Rachel Vinet-Krupa, donc la co-éditrice. Un ouvrage déjà sorti, mais en nouvelle édition. Allez, on laisse le mot de la fin à David avec une question un peu plus terre-à-terre.
Et alors, petite structure, tu dis que vous étiez deux, vous arrivez à vivre grâce aux maisons d'édition, ça arrive à tourner assez ?
Non, pas vraiment. Non, on a d'autres activités à côté. À côté, voilà, on s'occupe d'une structure de... On a une deuxième casquette à côté, on va dire, de notre travail d'éditeur, qui lui nous permet pour l'instant pas de vivre. Hein, l'activité, elle se paye elle-même, et c'est vrai que pour tirer des salaires, c'est très compliqué. Donc on a une deuxième casquette qui est une activité de diffusion. On s'occupe d'une structure qui s'appelle Obo Diffusion, qui est une structure qui existe depuis un peu plus longtemps, depuis 5 ans maintenant, et dont l'objectif est de représenter un catalogue d'une quarantaine d'éditeurs, pour beaucoup issus voilà, un peu du milieu libertaire, on va dire, dans l'édition. En tout cas, voilà, critique sociale, histoire politique, histoire du mouvement libertaire. Mais aussi, on a des éditeurs qui font de la littérature, des beaux-arts ou d'autres choses. Mais toujours, effectivement, avec en tout cas un peu la condition pour... Pour intégrer au beau, c'est en tout cas avoir effectivement une volonté en tout cas de critique sociale, on va dire, quoi. Et donc ça, c'est notre activité entre guillemets principale, voilà, qui nous permet là de vivre modestement, mais de vivre.
Canal Bulle.
comme à l'accoutumée, on va terminer avec des brèves. En l'occurrence, aujourd'hui, une seule brève. Et hélas, comme très souvent, c'est un décès. Début avril, à l'âge de 72 ans, disparaissait le scénariste et dessinateur Richard Pézaret. Alors, le nom de Richard Pézaret ne vous dit sûrement rien. Il est plus connu, en fait, sous le pseudonyme de Fmur. Fmur avec 3 R. Alors, pourquoi 3 R? On ne sait pas. Mystère. Maître du non-sens, de l'absurde, amateur de personnages forts en gueule, dessinateur aux traits tout à la fois nonchalants et énergiques, reconnaissable entre tous, il est surtout connu comme le créateur du Génie des Alpages, une série moutonnière démarrée en 1973 dans le célèbre magazine Pilote, et dont les 14 albums sont édités chez Dargaud, sans compter quelques intégrales. C'est évidemment pas sa seule création, hein. On peut citer Porfirio et Gabri, Les Contes à rebours, ou encore Jeanne d'Arc, rien à voir avec la biographie de Jeanne d'Arc, hein, de La Pucelle d'Orléans, ce personnage de Jeanne d'Arc est plus paillard. On peut citer aussi Spirella, Mangeuse d'écureuil, une satire érotique du personnage de Spirou, autant d'albums à lire ou à relire. Ciao Fmur, et c'est avec ce petit hommage que se termine Canal Bulle, épisode numéro 11. On se retrouve très bientôt, toujours sur Canal Sud, toujours pour parler bande dessinée et roman graphique. Salut!
Yo, 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 yo.